Le journal Kevin Dufraîche, bonjour.
Bonjour à tous. 20 000 réfugiés afghans accueillis à terme, le Royaume-Uni s'engage. Boris Johnson va défendre cette proposition devant le Parlement ce matin. Une position qui tranche avec celle d'Emmanuel Macron qui répond à la polémique après ses propos sur les flux migratoires irréguliers importants dont il faudrait se protéger. Position critiquée à gauche, notamment par plusieurs maires écologistes. À la une également les incendies, ça se calme dans l'Aude, mais ils ne sont toujours pas maîtrisés dans le Var et le Vaucluse. Les Canadairs sont donc très sollicités, la protection civile doit s'organiser. Une semaine qu'ils sont en première ligne pour soutenir leurs collègues face au Covid, les soignants venus de métropole abasourdis par la situation des hôpitaux aux Antilles. Le trafic aérien redécolle, les premiers bilans sont bons pour cet été après plus d'un an de crise. Et puis Gallimard, pressé d'éditer les manuscrits perdus de Céline, retrouvés il y a quelques jours. Vous entendrez Antoine Gallimard à la fin de ce journal.
À 8h20 dans le grand entretien, Sandrine Rousseau, candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts, à la veille des journées d'été du parti, on parle de l'accueil des Afghans, de l'union de la gauche pour 2022, de son programme aussi qu'elle présente comme écoféministe. On vous attend au standard, amis auditeurs, venez poser vos questions 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter.
France Inter. Comment accueillir les milliers d'Afghans qui fuient leur pays depuis la victoire des talibans dimanche? C'est désormais la question pour les pays occidentaux, encore occupés à rapatrier leurs ressortissants. Question qui divise déjà. La France, par la voix d'Emmanuel Macron, n'est pas prête à ouvrir grand les portes. On va y revenir dans un instant. Mais le Royaume-Uni, en revanche, s'est dit prêt hier à accueillir à terme 20 000 réfugiés afghans. Le Premier ministre Boris Johnson défendra ce projet dès ce matin devant les députés britanniques. Sommet de rentrer plus tôt de vacances pour l'occasion. France Inter à Londres, Maxence Peigné.
Nous avons une dette envers tous ceux qui ont travaillé avec nous pour faire de l'Afghanistan un endroit meilleur ces 20 dernières années. C'est avec ces mots que Boris Johnson a introduit sa proposition d'accueillir 20 000 réfugiés afghans sur le long terme. Ce chiffre s'ajoute aux 5 000 autres ressortissants déjà acceptés par Londres, du personnel employé par les forces britanniques durant leurs opérations dans le pays. Le nouveau dispositif bénéficiera en priorité aux femmes, aux jeunes filles et aux minorités religieuses. 5000 personnes dès la première année. Il s'inspire du programme mis en place pendant le conflit syrien qui avait permis à un nombre similaire de réfugiés de s'installer au Royaume-Uni entre 2014 et 2021. Mais la différence notable en Afghanistan, c'est que l'emprise des talibans sur l'ensemble du pays pourrait empêcher ceux qui le souhaitent de fuir vers l'étranger. Londres, Maxence Peigné, France Inter.
Boris Johnson qui s'est mis d'accord avec Joe Biden pour tenir une réunion du G7 consacrée à l'Afghanistan. Ce sera la semaine prochaine. Et alors que le Premier ministre britannique promet d'accueillir des réfugiés, Emmanuel Macron fait lui face à la polémique. Si le chef de l'État a indiqué lundi que la France ferait son devoir pour protéger les plus menacé. Il a dans le même temps expliqué qu'il faudrait, je cite, se protéger contre les flux migratoires irréguliers importants à venir. Volée de bois vert venue de la gauche. Alors hier à Bormes-les-Mimosas, le président a répondu à Adrien Beck.
Entre humanité et fermeté, Emmanuel Macron aurait-il trop mis l'accent sur la fermeté? En à peine 24 heures, le chef de l'État a publié deux tweets, dont l'un en anglais, reprenant les propos de son allocution, assurant qu'ils ont été déformés. Explication aux allures de justification. Hier soir, à Bormes-les-Mimosas, Emmanuel Macron a d'ailleurs balayé l'indignation d'une partie de la gauche.
Je me suis adressé hier solennellement aux Françaises et aux Français et j'ai répondu méthodiquement à chacun des points. J'invite chacun simplement à prendre la peine d'écouter en intégralité les, je crois, 11 minutes de déclaration que j'ai faites. Ils gagneront beaucoup de temps et je ne vais pas faire des commentaires basés sur des dépêches tronquées. Je pense qu'on gagnera tous beaucoup d'énergie et de temps à ce que tous ceux qui passent leur journée à commenter prennent 11 minutes de leur temps pour écouter ce que j'ai dit.
Le président défend un équilibre, même si protéger flux migratoires irréguliers, la sémantique est un message envoyé à la droite, car le chef de l'État le sait, à 8 mois de la présidentielle, il est risqué de laisser à LR et au RN de l'espace sur le sujet de l'immigration.
Adrien Beck est sur place en Afghanistan. Les évacuations se poursuivent. À l'instant, un nouveau vol français transportant des personnes évacuées a décollé en direction d'Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis. Hier, les premiers civils français et collaborateurs afghans sont arrivés à Roissy, 41 exactement. Les talibans assurent qu'ils sont prêts à protéger l'accès à l'aéroport de Kaboul, selon la Maison Blanche. Mais Berlin, de son côté, accuse les talibans Taliban, à l'inverse, d'empêcher les Afghans ayant travaillé avec les Occidentaux d'accéder à cet aéroport. Dossier complet pour tout comprendre de la situation en Afghanistan sur franceinter.fr.
8h05 dans le Var, le Mistral est tombé mais le feu n'est toujours pas fixé.
7000 hectares parcourus depuis lundi soir par l'incendie dans le département, c'est le plus violent de ces 20 dernières années. Ça brûle aussi dans le Vaucluse, là à l'inverse le vent a repris de plus belle cette nuit réactivant l'incendie autour de Baume de Venise. 50 hectares supplémentaires ont brûlé, 260 au total. 160 pompiers ont été envoyés en renfort, ce qui porte les effectifs à 300 hommes sur place dans l'Aude. En revanche, le feu est fixé mais la vigilance reste élevée. Des feux un peu partout, donc dans le sud de la France, et des demandes d'avions bombardiers d'eau dans tous les sens. Le gros de la flotte est basé à Nîmes, dans le Gard. Mais le commandant Alexandre Joissard, porte-parole de la sécurité civile, l'assure. Même si la demande est forte, les moyens sont bien répartis.
Il y a deux stratégies. La première, c'est la stratégie de lutte contre les feux naissants. Donc il y a toujours des moyens qui sont disponibles pour pouvoir attaquer rapidement un feu dans les 10 minutes après l'éclosion du sinistre et la découverte du sinistre. Et ensuite, la deuxième partie de la stratégie, vous avez un feu qui a parcouru des milliers d'hectares, qui donc est virulent, qui peut poser des problèmes et sur lesquels nos moyens terrestres ont besoin d'un appui aérien. La balance des moyens est permanente chez nous, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des moyens qui, sur zone, ne sont pas forcément suffisamment efficaces ou estiment que leur mission est remplie et vont pouvoir donner l'information et aller se projeter sur une autre zone. C'est le cas lorsque vous avez un départ de feu et vous pouvez avoir trois canadaires qui vont partir, qui vont taper le feu tout de suite. Le feu va être fixé et donc dans ce cas-là, ils vont pas faire une deuxième rotation, ils vont partir en direction d'un autre sinistre qui sera découvert. Donc non, on n'est pas sur une escalade de demandes permanentes avec on a toujours besoin des moyens aériens et tout le monde les veut chez soi. Au contraire, c'est coordonné. Il y a aussi, je pense, un travail qui est fait en anticipation lors de la préparation de la saison qui permet d'utiliser au mieux nos moyens aériens.
Le commandant Alexandre Joissard avec Nelly Asséna de France Bleu Provence. Garde à vue levée pour les deux policiers de la BAC qui ont blessé deux personnes par balle lors d'un contrôle routier. C'était dimanche à Stain en Seine-Saint-Denis. La scène a été filmée, largement diffusée sur les réseaux sociaux. Une information judiciaire sera ouverte dans les prochains jours, indique le parquet de Bobigny. L'automobiliste blessé de son côté a porté plainte.
Depuis une semaine, ils sont en renfort aux Antilles face au Covid.
Les dizaines de médecins et infirmiers volontaires partent de métropole pour prêter main forte à leurs collègues de Guadeloupe et de Martinique. Le temps que le confinement strict remis en place porte ses fruits, les malades continuent d'affluer dans les hôpitaux. Et à Norenstein, les volontaires sont stupéfaits de l'ampleur de la crise sur place.
C'est l'hécatombe qui continue chaque jour. On dirait que c'est sans fin.
Même dans son travail aux urgences à Paris, Joël Wallendoff n'avait jamais vu ça. L'impression de faire face à un flux ininterrompu de malades, de faire de la médecine de guerre.
Il y a tellement de malades, on est obligé de prioriser certains par rapport à d'autres. Parfois, on est obligé de sacrifier ceux qui ont le moins de chances de survivre.
Autre choc, le manque de matériel. Guyenne Diarra Dilatapi, infirmière à Rennes, a été affectée au CHU de Pointe-à-Pitre.
Il y a un manque flagrant d'oxygène qui entraîne un retard sur les prises en soins et certaines fois une perte de chance. C'est une denrée rare.
Plus de 100 tonnes d'oxygène sont attendues d'ici demain par un premier navire. Autre raison d'espérer, les comportements qui changent face à la catastrophe. Grégory Briquet, infirmier à domicile à Cambrai, le constate avec ses confrères.
J'ai fait ma première garde avec un infirmier de 35 ans qui, en sortant de garde, m'a dit « Alors c'est ça la Covid, je vais me faire vacciner ». Et je me suis dit « Il a fallu qu'il voit des gens en détresse respiratoire pour se rendre compte que c'est pas que du baratin, quoi ».
Tous retiennent aussi le travail d'équipe, le soutien, la solidarité qui existe entre tous ces soignants volontaires. Certains, comme Guyenne, voudraient même rester un peu plus longtemps.
Je me sens la force de continuer, j'ai envie de continuer à faire ce que je suis en train de faire parce que j'ai la sensation qu'ici, il y en a réellement besoin. En fait.
La mission est censée se terminer la semaine prochaine. 150 autres volontaires de métropole sont espérés pour prendre la relève.
Anne Orenstein. Et globalement, en France, le nombre de patients Covid en soins critiques continue d'augmenter. Doucement, un peu plus de 1950 ce matin. Du côté de la vaccination, 46,7 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 85% des plus de 12 ans. L'objectif des 50 millions d'ici fin août reste atteignable, dit le ministère de la Santé, même si le rythme des premières injections ralentit ces derniers jours. Se vacciner, un acte d'amour, dit ce matin le pape François. Message dans une vidéo pour une campagne d'incitation à la vaccination vaccination aux États-Unis et dans d'autres pays du continent américain. Les vaccins nous donnent l'espoir d'en finir avec la pandémie, dit également le pape. La crise du Covid qui l'an dernier a quasi totalement cloué au sol les avions de la planète et à l'heure des premiers bilans d'été, certaines compagnies aériennes et aéroports retrouvent des couleurs visiblement portées par les moyens courriers en Europe, notamment Philippe Lefebvre.
La reprise est encore malgré tout assez timide et si le seul aéroport de Roissy-Charles de Gaulle a accueilli un peu plus de 3 millions de passagers le mois dernier, cela ne représente toutefois que 41,1% du trafic de juillet 2019. Et d'ailleurs, Aéroport de Paris reste prudent, n'envisageant pas de retour à la situation d'avant la crise, avant 2024, voire 2027. Et cette reprise, elle profite pour le moment aux compagnies low-cost européennes. Par exemple, Transavia a enregistré une progression de 80% de son trafic à destination de la Grèce. La compagnie a même dû ajouter des avions pour répondre à la demande. Du côté de Ryanair, on évoque un taux de remplissage des avions de l'ordre de 80%. Et chez EasyJet, on indique que certains vols intérieurs au départ de Paris vers Biarritz, Montpellier, Calvi ou Toulon seront maintenus au moins jusqu'à l'automne. Enfin, pour les vols long courrier, la reprise sera plus lente et pour tenter de sortir de la crise, certaines compagnies pourraient être amenées à s'associer, comme vont le faire Air Austral et Corsair pour la desserte de l'océan Indien.
Philippe Lefebvre, France Inter, 8h11. Dans un peu plus d'un mois, l'Allemagne va changer de visage.
Et oui, après 4 mandats et 16 ans au pouvoir, elle va, quoi qu'il arrive, passer la main.
Wenn wir das alles schaffen wollen.
La chancelière Angela Merkel archive de 2005 en meeting lors de sa première campagne. Chaque matin cette semaine sur France Inter, on se penche sur les grandes dates à suivre dans le monde dans les mois qui viennent. Et le 26 septembre, donc élection législative en Allemagne. Après le règne Merkel, ça s'annonce plus indécis que jamais, Cyril Sauvageau.
Un œil sur les sondages, l'autre sur les débats de la fin de campagne. Ces jours-ci, c'est l'accueil des réfugiés afghans qui agite le pays. Les Allemands s'interrogent qui va bien pouvoir succéder à Angela Merkel. Il y a encore quelques semaines, l'héritier naturel, le candidat de CDU, Armin Laschet, semblait bien parti. Mais plus le scrutin approche, plus les écarts fondent, comme si les électeurs ne voulaient pas se résoudre à tourner la page. L'ombre de la chancelière plane sur tous les candidats, à commencer par Armin Laschet lui-même, qui a du mal à convaincre que le costume n'est pas trop grand pour lui. La chef de file des Verts, Annalena Baerbock, n'échappe pas non plus aux comparaisons avec cette autre femme qui a réussi avant elle à s'imposer. Quant au troisième homme, le social-démocrate Olaf Scholz, il émerge de plus en plus comme un candidat sérieux, mais sa crédibilité vient surtout du fait qu'il est le ministre des Finances sortant d'Angela Merkel. Quel que soit celui qui arrivera en tête, il devra s'inspirer de la méthode de la chancelière, ce sens du compromis et de la mesure, pour réussir à bâtir une coalition, car les négociations s'annoncent ardues, elles pourraient durer des semaines, voire des mois. La stabilité, le maître mot des années Merkel, n'est plus garanti.
Cyril Sauvageau, direction la pointe bretonne à présent, entre Brest et l'île d'Ouessan, où des bateaux font la navette chaque jour pour accompagner les touristes. On en parle moins que pour les voitures ou les avions, mais les bateaux polluent eux aussi, ceux qui naviguent au fioul lourd. Sauf que cette pollution est mal connue. Alors au bout du monde, des chercheurs de l'école d'ingénieurs Estaca ont commencé cet été à la mesurer précisément. Objectif, trouver des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de ces bateaux. Sur le pont, le reportage de Célia Kiré.
Mesdames et messieurs, nous quittons le port de Molène. Nous faisons route sur Ouessant, durée de traversée de 30 minutes.
Le capitaine de ce bateau, le Fromver 2, commence la manœuvre pour sortir du port. Sur le pont, Benoît Sago, enseignant-chercheur, regarde les fumées noires. Il a installé plusieurs appareils pour récupérer et quantifier les particules fines qui sortent de la cheminée.
Là, j'installe le système de dilution. En fait, on prélève des particules fines dans la cheminée. Voilà, c'est le moteur démarre. Là, c'est le moment où on a le maximum de dégagement. Voilà, donc c'est très visible, mais ça ne dure pas très longtemps. Il y a vraiment plusieurs instruments. Certains ont besoin de 2 minutes pour scanner, évaluer taille par taille le nombre de particules. On va voir que sur les manœuvres, on a effectivement des taux d'émission qui sont plus importants qu'en navigation.
Et justement, le directeur technique de la compagnie Penerbed, Arnaud Lecampion, réfléchit à de nouveaux moteurs hybrides avec une propulsion électrique pour réduire ses émissions.
Maintenant qu'on sait à quelle phase on pollue le plus, par exemple sur les phases de manœuvre, ça permet de pouvoir régler les moteurs à la charge optimale pour polluer moins justement. Ensuite, ça permettra aussi de regarder sur les futures motorisations, qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, on ne peut pas polluer en fait dans une zone, un parc-mar, parce que c'est une zone naturelle protégée, une zone sensible au niveau pollution, à cause de tous les bateaux qui naviguent dans la zone.
Cette compagnie, Pen Arbed, espère que ces nouveaux navires seront opérationnels d'ici 2 ou 3 ans.
Le Conquet, débarquement plage arrière.
C'est Yakiré et ses mesures donneront leurs premiers résultats dans 1 an.
Quand pourra-t-on lire les manuscrits retrouvés de Louis-Ferdinand Céline ?
Question alors que 6000 feuillets disparus depuis 80 ans, dont 600 inédits du roman inachevé Casse-pipe, étaient secrètement détenus par un ancien journaliste de Libération. Révélation du journal Le Monde, c'était au début du mois. Ils sont désormais entre les mains des ayants droit de Céline et l'éditeur Antoine Gallimard espère trouver un accord rapide avec eux. Désormais, il l'a dit à notre confrère de France Culture, Benoît Grossin.
J'étais à la fois stupéfait et très heureux d'apprendre qu'on a fini par les retrouver. On pensait que Céline exagérait, mais ils ont bien été volés. C'est comme un beau trésor, parce que c'est à la fois un roman autour de Londres qui s'appelle La Guerre. Il y a Casse-pipe, donc où, je vous rappelle, où on avait publié qu'un petit fragment. Casse-pipe est dans la matrice de l'œuvre, parce qu'à la fois, il y a tout son style, et puis en même temps, tous les personnages un peu glauques, un peu sombres qu'il a connus à Londres. Je suis content de savoir déjà que ces manuscrits sont à l'abri grâce aux ayants droit. C'est une sécurité. Bon, on sait qu'on va ouvrir la caverne d'Ali Baba. Et c'était le souhait de Céline, même si effectivement ces relations houleuses qu'il avait avec Gaston Gallimard, il souhaitait que son œuvre, ça soit un ensemble. De lire aussi bien Guignol's Band que la trilogie du Nord, que Mora Crédit. L'édition déjà de Casse-pipe, mon rêve, ça serait de le publier dès l'année prochaine.
Et si vous voulez aller plus loin au sujet de ces manuscrits retrouvés de Céline, vous pouvez réécouter le grand entretien que vous aviez mené, Hélène Roussel, il y a pile une semaine sur France Inter. C'est à réécouter, bien sûr, sur franceinter.fr.
Eh bien, merci beaucoup, Kevin Dufraîche.
Je vous en prie.
À demain pour vous. La météo.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Stéphanie Fromentin, le ciel se décline en dégradé de gris. Ça a l'air joli comme ça, mais pas vraiment.
C'est ça, on passe du gris foncé au nord au gris presque blanc en allant vers le sud pour atteindre le gris bleu azur sur le pourtour méditerranéen. Sur le tiers nord, la matinée s'annonce maussade, ponctuée de quelques pluies. Cet après-midi, les précipitations régressent vers les frontières du nord tout en se raréfiant, mais les apparitions du soleil restent hésitantes. Au sud de la Garonne, les grisailles matinales glissent vers le Piémont et le Pays Basque. Un ciel variable, partagé entre du soleil et des nuages, s'installe sur le reste du pays, sauf du Languedoc-Roussillon au sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA, où le soleil s'impose en général. Toutefois, sur les Alpes du Sud et l'île de Beauté, des bourgeonnements pourraient conduire à quelques averses cet après-midi, voire un orage sur le Mercantour. Et puis le vent continue de souffler, mais plus modérément, entre 40 et 60 km/h.
Les températures restent de saison, enfin tant qu'on est sous le soleil exactement.
Oui, parce que si on est sous les nuages, elle se réfugie 3-4 degrés sous les normales. Le réveil est frais, 12 à 16 degrés en général, 12 à Brest, Blois ou Saint-Étienne, 16 à Paris, Carcassonne ou La Rochelle. C'est toujours plus doux autour de la Grande Bleue avec 18-22 degrés. Oui, ce matin, pardon. Cet après-midi, il fera 21 à 25 degrés sur la majeure partie du pays. 21 degrés à Lille, Biarritz, Tarbes ou Océan. 25 à Toulouse ou Chambéry. Et puis 27 à 32, donc sur le sud-est, voire localement 33-34 dans le Var.
Tout ce gris, elle en perd les pédales. Merci Stéphanie Fromentin. France Inter, 8h18, géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere. Huawei, Duba. Wahdahoum, Souria. Sur France Inter.
Avec vous, Anthony Bélanger, bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
A-t-on une idée de ce à quoi ressemblera un gouvernement taliban ?
Alors, il y a deux façons de répondre à cette question, en regardant la façon dont les talibans ont déjà gouverné et en les prenant au mot. Entre 1996 et 2002, les talibans ont navigué, vous savez, entre deux écueils. D'abord, ils méprisaient la société tribale traditionnelle afghane. C'était l'une de leurs promesses de conquête du pouvoir. En finir avec le clanisme et le partage ethnique du pouvoir qui avait abouti à la guerre civile des années 90. Et puis ensuite, ils refusaient à l'époque de s'appuyer sur un état structuré et une administration civile. Pour eux, tout toute institution créée en dehors de la charia, la loi de Dieu, était illicite, une sorte de concurrence déloyale. Ils avaient des ministères, une bureaucratie, mais faible, et avant tout inspirée de l'islam. L'essentiel de leur administration consistait en des tribunaux islamiques et des écoles coraniques.
Et c'est ce modèle, Anthony, qui risque de s'imposer à nouveau.
Alors, les références à l'islam et à la charia sont au cœur du mouvement taliban, et surtout, elles sont perçues comme la seule chose unifiant un pays fait de communautés nationales différentes. Qu'est-ce qui unit un pachtoun, un ouzbek, un tadjik et même un hazara chiite? Eh bien, c'est l'islam. Mais les talibans ont fait passer deux messages depuis la prise du pouvoir, qu'ils comptaient diriger un gouvernement islamiste inclusif et qu'ils amnistiaient l'ensemble des fonctionnaires travaillant pour l'administration précédente. Ils ont de plus entamé des négociations avec d'anciens hauts responsables politiques, comme l'ancien président Hamid Karzai ou l'ancien premier ministre Abdullah Abdullah, les deux réunis au sein d'un haut conseil pour la réconciliation nationale. Alors que s'est-il passé? Eh bien, les talibans ont compris que leur réticence des années 2000 à créer un État leur a coûté très cher. Sans ancrage administratif ou territorial autre que leur communauté d'origine, leur éviction par les Américains était d'autant plus simple. En clair, les talibans d'aujourd'hui veulent perdurer et donc installer un régime à leurs mains. Au fond, ils ont en tête la résilience du régime d'inspiration religieuse de la République islamique d'Iran voisine, qui est fermement installée aux commandes du pays, et ce depuis plus de 40 ans.
Ont-ils les moyens d'installer ce régime? Qui sont leurs dirigeants?
Alors, contrairement à d'autres mouvements djihadistes, il n'existe pas de branche politique distincte de la branche militaire. Par contre, une équipe composée de quelques leaders a des années durant été chargée des négociations avec l'étranger et depuis l'étranger. Concrètement, depuis la représentation permanente des talibans au Qatar. Or, en leur sein, il y a un primus inter pares. Il s'appelle Abdul Rani Baradar, qui a négocié les accords de février 2020 avec les Américains et qui est rentré dimanche en Afghanistan. On le dit pragmatique et plutôt ouvert au compromis. Ce qui est certain, c'est qu'on lui doit toutes les promesses passées avec les pays qui demain pèseront sur l'avenir du pays, Iran, Russie, Chine, Pakistan et même Américains. C'est lui qui a promis de ne pas faire de son émirat islamique un havre pour les djihadistes internationaux et encore moins pour l'État islamique qui est l'ennemi mortel de son mouvement. Maintenant, le plus difficile commence, j'allais dire, les ennuis commencent, à savoir gérer un pays complexe de 40 millions d'âmes.
Anthony Bélanger, géopolitique, l'écologiste Sandrine Rousseau dans le grand entretien à suivre. Restez avec nous sur France Inter.